Comme un cri de guerre en pleine saison. Et oui, c'est la rentrée littéraire. Le monde du livre jubile. Journalistes, écrivains, éditeurs se croisent et s'entrecroisent. Comment s'orchestre ce festival d'intérêts communs? Est-ce l'occasion de petits arrangements entre amis? Est-ce un trio à vocation pacifique ou serait-ce plutôt une guerre du Troie? Isabelle Falconier, Christine Gonzalez, Bernard Campiche, Quentin Mouron, bonjour.
Bonjour.
Merci à tous les quatre d'être en direct, d'être venus en direct dans les studios de Médialogue. Je vous présente Isabelle Falconier, critique littéraire à l'Hebdo, présidente du Salon du Livre à Genève, responsable de la politique du livre de la ville de Lausanne et puis également aussi responsable du supplément Livre des librairies Payot. J'ai oublié quelque chose.
Je suis une grande amie des livres.
Christine Gonzalez, journaliste RTS, critique littéraire pour le magazine Vertigo sur la première, et puis épisodiquement aussi pour le magazine TV La Puce à l'Oreille. Bernard Campiche, éditeur. Les romans, vous connaissez passablement, ça fait longtemps que vous êtes dans le monde de l'édition en Suisse romande.
30 ans l'année prochaine.
30 ans, quel engagement. Quentin Mouron, écrivain.
Exactement, je crois que c'est tout.
C'est tout ?
C'est déjà beaucoup, mais 4 livres.
Voilà, exactement.
Une fois n'est pas coutume, on va commencer par l'actualité pour identifier vos voix. C'est comme ça qu'on fait. J'aimerais un petit tour de table avec cette photo qui, ma foi, a une inertie incroyable dans l'actualité. Cet enfant mort à plat ventre, la tête enfoncée dans le sable, les vagues qui viennent mourir sur ce corps inanimé. Une déflagration médiatique là depuis 2 jours. Qu'est-ce que ça vous inspire, Isabelle Falconier?
Ça me navre de vivre dans un monde où il faut ça. Mais hélas, il faut ça. Quand les arguments rationnels à la raison suffit pas, il faut une image. Il faut une image pour, je dirais, manipuler l'opinion des dirigeants.
Bernard Campiche.
Pour moi, c'est particulier parce que j'ai perdu il y a 15 ans une enfant de 6 ans. Donc quand je vois un enfant mort au bord d'une plage, j'ai vu ça à la télévision, donc j'ai pas vu les journaux.
C'était mercredi soir.
Ça me touche, forcément. Mais maintenant, heureusement, la distance fait que j'arrive à encaisser ce genre de choses. Pendant longtemps, je ne pouvais pas.
La mobilisation populaire vous console?
Oui, mais c'est un peu malheureux qu'il faille ça pour avoir une mobilisation, parce que le problème, il existait déjà avant. Mais c'est vrai que moi, j'ai déjà été touché, mais au plus profond de mon être, parce que je sais ce que c'est que de perdre un enfant. Donc, je trouve assez épouvantable. Lui, il en a perdu 2, en plus. Alors franchement, j'ose pas imaginer.
Quant à Mouron ?
Écoutez, moi je suis un petit peu moins optimiste peut-être sur cette mobilisation populaire. On partageait une photo sur Facebook, c'est très facile. J'ai l'impression que ça a été le matériau de base de la presse pour dire qu'il y avait une mobilisation. Je pense que la mobilisation, c'est surtout les migrants qui doivent la ressentir et pas ni la presse ni le baromètre Twitter. Donc j'espère qu'ils la ressentiront à court terme, le plus tôt possible évidemment. Pour l'instant, évidemment, je suis pas encore convaincu.
Christine Gonzalez, Photoshop.
Photoshop qui incarne évidemment ce qu'il y a de plus dramatique, mais aussi qui incarne une nouvelle prise de conscience collective. La question des migrants, ça fait des semaines et des semaines qu'on en parle, et tout d'un coup, là, surgit une photo qui fait réagir, que l'on partage sur les réseaux sociaux. La partager, certains journalistes le disent aujourd'hui, peut-être une manière de s'acheter une bonne conscience. Moi, je crois plutôt qu'elle exprime plutôt notre mauvaise conscience.
Samedi prochain, Médialogue, merci à tous les quatre. Ce sera samedi prochain, Médialogue évoquera les traitements précisément journalistiques en rapport avec cette vague de migration. Quelle responsabilité pour les rédactions pour quand ils racontent et reflètent cette réalité. Eh bien, 3 rédacteurs en chef seront présents en direct dès 9h15.
Ça y est, c'est la rentrée, et une rentrée foisonnante quand elle est littéraire.
Et on commence par un nombre, et cette année c'est 589. C'est le nombre de livres qui sont empilés dans votre bureau et que vous allez devoir lire pour la rentrée.
Alors, il y en a moins que l'année dernière, figurez-vous. Il y en a 18 de moins que l'année dernière. Ce qui est intéressant, c'est que les grandes maisons ont resserré leur production. Gallimard, Grasset, Le Seuil publient moins. Mais en revanche, il y a plein de petites maisons qui naissent et qui publient des romans, des premiers romans.
Alors une première question, tout d'abord, ce phénomène de rentrée littéraire, c'est une spécificité française?
Oui, c'est une spécificité française. C'est vrai que dès qu'on demande un peu aux Américains, qui ont pourtant une grosse production éditoriale, ou aux Anglais, ils ne sont pas tellement dans ce registre, ils ne comprennent pas beaucoup. Et je pense que c'est lié au prix, en fait. Avec toute cette avalanche de prix littéraires à partir de fin octobre-novembre, c'est pour ça qu'il y a une concentration de publications à ce moment-là.
Le prix Goncourt 2014 a été attribué au 5e tour de scrutin.
Ah, Mes dialogues, rentrée littéraire, sur quels critères les journalistes font-ils leur choix littéraire? Les critiques littéraires, romans, subissent-ils l'autoritarisme parisien? Quelle place dans vos médias pour les auteurs romans? Isabelle Falconi, on va commencer avec vous. Finalement, cette rentrée littéraire, vous la faites en ce moment avec le livre sur les quais, il y a une rentrée romande. C'est vrai, on se dit souvent, c'est Paris qui donne le là, finalement, c'est de la sous-traitance que vous faites.
La rentrée, elle commence
déjà
au mois de
juin. C'est juste cette vision?
Mais non, évidemment non. Enfin, vous attendez. Pourquoi vous dirais-je oui? Je suis justement là pour expliquer que les choses sont beaucoup plus compliquées, multiples. Mais pour moi déjà, je trouve que c'est une excellente nouvelle, toute cette excitation autour de la rentrée littéraire. Je pense qu'il faut juste commencer par saluer ça. C'est fantastique qu'on en soit à se battre pour être le premier qui réussit à lire Millennium, à décrocher le premier interview de Joël Dicker, ou à être celui qui découvrira la nouvelle plume qui demain sera la nouvelle star, qu'elle soit suisse, belge ou française. Tout ça pour du livre qui a 10-15 ans, on disait c'est fini, on peut l'enterrer de sa belle mort. Donc je trouve que déjà, commençons par nous réjouir de cette
excitation. Mais est-ce que
excitation.
Ça sonne pas un petit peu promotion commerciale quand même des fois de la part de la plume des journalistes?
Mais c'est du livre, du commerce. Demandez à Quentin combien il gagne avec ses bouquins. Demandez à Bernard Campiche combien il gagne à la fin du mois avec ses livres. Vous pensez vraiment qu'ils font du business et que nous, journalistes culturels, dont les pages culturelles et l'importance des rédactions culturelles n'a pas arrêté de diminuer ces dernières années, nous faisons du business. Non, franchement, la rentrée commence en juin et nous choisissons ce que nous lisons en juin. Quand on choisit les livres qu'on va lire dans, effectivement, les premiers dessins, 600 qu'on va recevoir jusqu'à fin septembre, ensuite ça s'arrête pas, hein. Il y en a en octobre, en novembre, en décembre, en janvier, à ce moment-là, il n'y a pas eu de critique dans Livre Hebdo, il n'y a pas eu de préliste, il n'y a pas eu de contact d'attaché de presse. Nous sommes seuls devant notre tas de livres à jubiler, parce que moi, chaque année, je suis ravie de pouvoir découvrir des bouquins à la passion, on m'a jamais quittée. Et c'est là le moment qu'on va décider
tout
de ce qu'on lit. Voilà.
Tout est pour
grands,
le mieux dans le meilleur des
inconnus.
Mondes. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais... pas de business dans le monde du livre, Christine Gonzalez.
Non, par rapport à d'autres domaines culturels comme le cinéma, ou pareil, pour moi, par exemple, le cinéma, c'est un bon exemple. C'est-à-dire que je vois des collègues qui se livrent à une sorte de mercato, je te file.
Un second couteau pour avoir la star,
la troisième,
et encore cette hypothétique,
voilà,
c'est le genre de négociation qui se
nous,
fait chez
pas
les producteurs.
Du tout là-dessus, effectivement, Isabelle Falconi a raison, c'est-à-dire qu'on est seul décideur de qui on invite, qui on veut lire, on reçoit les catalogues au mois de juin déjà, on sait qui on veut voir et à qui on veut parler et qui on veut lire au mois de septembre. Après, la réalité, elle est là, c'est-à-dire qu'on a une avalanche de livres. Alors oui, c'est la fête, c'est génial, mais en attendant, c'est vrai que moi, parfois, je me retrouve un peu débordée. Je me dis, mais qu'est-ce que... Évidemment, je vais pas les lire, ces 600 livres.
Économie
évidemment.
Fragile, il y a trop de livres. C'est ça qui est compliqué.
Vous les lisez, les livres, quand vous en parlez?
Évidemment. Enfin, je dis évidemment. Oui, évidemment, pour nous, en Suisse romande, souvent les auteurs français, quand on les invite, ils nous remercient, ils nous disent merci de nous avoir lu.
Les journalistes suisses et belges ont la réputation de lire vraiment les livres.
Ça peut paraître...
Je pense qu'on peut en être fiers,
oui.
On fait notre boulot.
Mais c'est normal, enfin, ça peut paraître aberrant.
Isabelle Falconier, moi je suis complètement stupéfié par le nombre de casquettes et de responsabilités que vous avez. Je crois en Suisse romande, hein, vous êtes...
Je m'occupe que de livres, que de livres.
Et
je
m'occupe
pas de cravate, de voiture, ni...
Vous lisez quand?
Ben, je sais pas, tout le temps. Demander à mes enfants et mon mari. Non, mais je sais pas, j'ai un livre à l'arrêt de bus, j'ai un livre dans mon lit le soir et je sais pas, on lit vite, on est des lecteurs professionnels. Malgré tout, il se trouve qu'on développe des méthodes de lecture plus ou moins lentes, plus ou moins rapides. Enfin, ça a toujours été ma passion. Je baigne dedans depuis toujours. C'est pour ça que ça me semble naturel aujourd'hui de faire tout ce que je peux pour le livre, quels que soient les outils, je sais pas, de professionnels que j'utilise dans ma vie. Tout ce que je peux faire en tant que pour promouvoir, aider, accompagner le livre, quelles que soient les étapes de la chaîne du livre, je le fais. Je suis ravie d'avoir cette opportunité aujourd'hui.
Quant à Mouron, les journalistes lisent correctement les livres, ils vous conviennent concernant
oui,
le travail
si
qu'ils fournissent ici.
C'est pas si mal normalement. Non,
alors on fait une différence entre Suisse romande. On vient de le souligner, Christine Gonzalez vient de le souligner, entre ce qui se passe en Suisse romande. Alors visiblement, les journalistes romands sont très éduqués, ils lisent les livres de A à Z. En tout cas, c'est ce qu'ils nous promettent. Toujours est-il qu'il y a quand même des soupçons en ce qui concerne l'activité journalistique française. Vous l'avez constaté, vous avez aussi été publié dans la presse française.
Oui, mais ça m'a moins choqué déjà parce que quand vous avez un article écrit, vous n'êtes pas en face du journaliste, donc il peut forcément en donner le change. Et puis non, les, journalistes même à qui j'ai eu affaire, en tout cas, m'avaient semblé avoir lu le livre. Alors je suis peut-être très naïf, ou alors très bon public, et c'est vrai que quand on me flatte, j'ai tendance à, mes sens ont tendance à s'endormir. Mais je crois que c'est, mais je crois que, mais en tout cas, j'avais eu l'impression qu'ils l'avaient lu. Mais je sais qu'en effet, pour des, souvent des émissions qui sont des fois plus de divertissement aussi, on fait semblant, on présente 5-6 livres, on fait semblant tous les avoir lus.
Voilà, quand on sera invité chez Ardisson et chez Ruquet, vous me direz s'ils vous ont lu.
Oui, voilà, ça évidemment, ce sera peut-être un petit peu
voilà,
différent.
Voilà, parce qu'ils ont la fiche du pitch, comme on dit.
Oui,
hein.
Voilà, et puis on s'imagine que peut-être quelqu'un l'a lu en diagonale derrière, et puis voilà, donc ça, je pense que... Mais c'est vrai qu'en Suisse, généralement, les gens donnent l'impression d'avoir lu le livre. Et souvent, en plus, comme il y a assez peu de place, Isabelle le disait tout à l'heure, pour la culture, normalement, quand on parle d'un livre, c'est qu'on l'a plus ou moins aimé, sauf erreur. Donc c'est vrai que les journalistes, en plus, non seulement l'avaient lu, mais souvent l'avaient aimé. Ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, parce que ça permet de prolonger l'interview. Et c'est toujours un tout petit peu plus sympa. Alors on va rentrer dans le copinage, mais c'est quand même toujours sympa de boire un café après, une fois que l'interview est finie, pour pouvoir justement se raconter plus en détail ce qui a fait qu'on a été touché par un livre.
À propos de votre dernier livre, je lis ceci. Dans « Trois gouttes de sang et un nuage de coke », Quentin Mouron perd les qualités qui le distinguaient. L'auteur distille bien un peu de satire sociale et de narration hallucinée, mais la mayonnaise ne prend pas. Extrait d'une critique signée Marianne Grosjean et publiée dans la Tribune de Genève.
Oh ben c'est son droit de le dire. Vous savez, on a le droit de critiquer un livre, on a le droit aussi de critiquer la critique. Moi, je trouve que ce serait un sujet d'émission. D'ailleurs, le recours au verbe intransitif qui devienne intransitif et qui ne l'était pas, le livre déçoit, le livre, voilà, quand un mouron provoque, on ne sait pas ce qu'on provoque, mais on provoque, on déçoit, voilà, ce sont des choses qui font partie du jeu. C'est amusant. La critique m'amuse aussi. Elle n'est pas seulement là pour me beurrer, pour me tartiner, pour me lubrifier. Donc,
et
c'est vraiment quelque
Il faut se distinguer, enfin, en tant qu'auteur, il faut distinguer sa personnalité parce qu'il y a une visibilité médiatique à avoir. On va sans doute en parler tout à l'heure. Vous vivez dans un pays formidable, Bernard Campiche.
Oui, oui. J'ai beaucoup de chance. Parce que si j'habitais juste en face, à Évian, je pense que ça ferait au moins 20 ans que je ne serais plus éditeur.
Mais les journalistes ont manqué certains livres et vous l'avez regretté.
Oui, oui.
Il le fait bien savoir.
Quand j'ai commencé, il y aura 30 ans l'année prochaine, il me fallait un classeur fédéral par année pour mettre les articles. Maintenant, je pense que le même classeur fait 5 ou 10 ans. Donc, oui, ben, il a fallu s'adapter. Il faut s'adapter, mais on ne peut pas s'adapter du jour au lendemain.
On en arrive au rôle de la critique. Nous ne sommes pas les attachés de presse des maisons d'édition. Il y a aujourd'hui mille et une manières de faire en sorte qu'un livre soit lu, trouve son public. D'ailleurs, la critique seule n'a jamais fait le succès d'un livre. Ça ne suffit pas. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif.
Mais est-ce que vous pouvez échapper au rouleau compresseur, Millennium, Joël Dicker, Amélie Nothomb?
Pourquoi y échapper ça? C'est l'actualité. Est-ce que vous allez demander à la rubrique politique, mais comment échapper au rouleau compresseur des élections à Berne cet automne? Non, c'est l'actualité. À nous de la traiter, de trouver une manière intéressante, originale, d'apprendre quelque chose à nos lecteurs sur ce phénomène qui est un phénomène économique, culturel, social, d'une grande complexité et donc d'un grand intérêt.
Christine Gonzalez.
Et l'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire qu'évidemment, si on s'adresse, comme là sur la première, c'est une chaîne généraliste, à un large public, on va parler d'Amélie Nothomb, on va parler de Millennium, de Dicker évidemment. Rien n'empêche de recevoir pendant une heure un auteur comme, je sais pas, dans l'écurie Campiche, Salzmann ou Verdant, que les gens connaissent peu ici, et leur accorder une belle visibilité.
Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire du mal de Joël Dicker ou Metin Arditi?
Non, moi je crois pas. Je crois que Joël Dicker, par exemple, c'est devenu... Imaginez, je sais pas, au niveau du football, la Suisse qui gagne la Coupe du Monde. Enfin, c'est un truc complètement dingue qu'on n'aurait jamais imaginé. On peut pas s'empêcher d'avoir une certaine fierté. Enfin,
c'est un peu dommage, d'ailleurs.
Non, oui, enfin oui, c'est dommage. C'est-à-dire qu'on peut dire que j'ai moins aimé le Dicker, j'ai pas trop aimé le Dicker, mais moi, je peux que être hyper heureuse de ce qui se passe en Suisse autour du phénomène Joël Dicker.
Critiquer Joël Dicker, c'est critiquer Roger Federer.
Ouais, ça y ressemble, mais si je veux pas m'empêcher de le faire, j'ai pas encore fini son dernier livre. Si je l'ai pas aimé, je vais pas dire que j'ai adoré. Enfin, je veux dire, j'ai une honnêteté, j'ai une intégrité vis-à-vis de mon travail.
Vous voyez le raccourci que vous faites? Critiquer Dicker. Pourquoi on critiquerait Joël Dicker en tant que personne? Il faut savoir de quoi on parle. On peut parler de son livre. Ensuite, Dicker comme Millennium sont devenus, plus qu'un livre. Mmh. Effectivement. Donc, il y a beaucoup d'autres choses intéressantes à décrire là autour. La littérature, c'est pas seulement la critique littéraire, c'est justement parler de comment on arrive là, le phénomène autour, les histoires de traduction, de diffusion. Ça permet d'aborder des thèmes dont le public généralement n'entend jamais parler. Comment on vend des droits d'un livre, qui organise les déplacements d'un auteur, pourquoi Joël Dicker n'a pas d'agent et fait tout avec son seul éditeur Bernard de Folla. Tout ça, ce sont des questions intéressantes que permet d'aborder enfin le cas Joël Dicker.
Avec une vision romande.
Avec une vision romande.
Bon, relativement, disons, à Joël Dicker, il y a quand même quelque chose de nouveau. Et là, je pense que c'est quand même bien de le. Alors, plus sur la personne, mais sur le livre même. C'est qu'avant, forcément, pour le premier roman Dicker, avant le succès, c'était, comme tout le monde, Joël Dicker et comme les auteurs courent après les journalistes et espèrent avoir un article. Tandis qu'évidemment, maintenant, la situation est inverse. C'est plutôt les journalistes qui espèrent avoir une audience de Joël Dicker. Alors, forcément, une fois qu'ils l'ont obtenu, ils vont pas encore vouloir en dire du mal parce qu'il faut des semaines pour pouvoir enfin, boire un café avec lui. Forcément. On est un peu ça crée une sorte d'impression VIP comme ça, qui est d'ailleurs tout à son honneur de l'avoir créé. Mais je pense que
que vous courez après les journalistes.
Oui, il faut toujours courir un peu les journalistes. Alors moi, j'ai la chance d'avoir des éditeurs et des attachés de presse qui le font à ma place, donc j'ai pas trop besoin de courir. Je relance rarement moi-même, évidemment, parce que c'est toujours. Mais parce qu'il y a ce côté d'orgueil, il y a aussi ce côté combat de coq entre les auteurs et les journalistes. C'est-à-dire qu'on sait que si on propose quelque chose. Un journaliste, généralement, l'article sera moins gros que si c'est lui qui nous propose. C'est des choses qui sont quand même assez automatiques.
Il y a une espèce être très technique dans les relations avec les journalistes, alors.
C'est une rencontre, un article, c'est une rencontre entre un journaliste et un livre, un journaliste et ensuite une personne. Et de l'intérêt de la rencontre, je veux dire, découle le genre d'article qu'on peut publier. D'ailleurs, ensuite, l'intérêt du métier de critique, c'est de trouver la bonne manière de parler d'un livre. C'est d'inventer des outils journalistiques, de trouver le bon genre journalistique. On peut, il y a, je ne sais pas, une quinzaine de genres journalistiques à disposition d'un journaliste culturel pour traiter d'un livre. Il y a la critique littéraire, simplement, et puis ensuite, il y a tout le reste, il y a le portrait,
mais il n'y a pas que les journalistes culturels, parce qu'il y a encore, pour parler d'un livre, j'ai aussi eu des articles de journalistes qui n'étaient justement pas, qui étaient des généralistes, qui n'étaient même pas d'ailleurs, qui ne parlaient pas forcément du livre, mais d'autres, quelque chose en lien, par exemple, avec un prix, avec quelque chose. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, moi, je ne suis pas forcément un puriste qui veut absolument la critique littéraire de haut de volée.
Il ne faut pas de
ghetto. Christine Gonzalez.
Non. Il faut surtout remettre les choses un peu en perspective. Il ne faut pas s'imaginer que la presse, que les médias ont un si grand pouvoir que ça sur la vente des livres. Ça, c'est complètement fantastique.
Vous ne vous faites pas d'illusions sur votre pouvoir d'influence.
Le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est la visibilité en librairie. C'est pour ça que se battent les éditeurs. C'est pour être bien placé à la FNAC. Ce n'est pas pour avoir un article dans 24 heures.
Et dans les librairies numériques aussi, bien sûr.
Vrai, Bernard Campiche ?
C'est vrai. Le travail, d'abord, il faut savoir que ça a été très vite. La numérisation pose d'énormes problèmes au niveau de la presse.
En fait, vous fichez des journalistes ou vous n'en avez pas besoin ?
Si.
Pourquoi ? Alors,
parce
que
on n'accordera jamais un prix littéraire à un livre qui n'a aucun dossier critique.
C'est une chaîne, la chaîne du livre.
Et ça fait plaisir à l'auteur aussi d'être invité, de parler de son livre.
C'est donc une vraie guerre du Troie.
C'est-à-dire qu'il faut garder sa personnalité. Enfin, moi, c'est mon avis, chacun fait comme il veut. Mais moi, c'est vrai que j'ai pas lutté pendant 30 ans pour faire une carpette, je suis pas comme ça. C'est pas le moment, c'est pas à 59 ans que je vais commencer à cirer les pompes. Donc voilà, mais il y a d'autres qui font pas comme ça, je respecte autant. Hein.
Mais vous avez connu plusieurs époques, Bernard Campiche, celle où vous deviez, parce qu'il n'y avait que ça, aller à la radio, aller à la télévision et aller dans la presse, il y avait trois vecteurs bien distincts. Aujourd'hui, les choses changent, sont survenus les réseaux sociaux, et peut-être que vous avez nettement besoin des journalistes.
Alors moi, j'ai une page Facebook.
Ça a quand même changé pour vous.
Oui, beaucoup. J'ai une page Facebook, mais c'est pas moi qui l'a fait, c'est un de mes auteurs, mais je donne le matériel. Oui, ça a énormément changé. Et il faut s'adapter, sinon on est foutu.
Au risque de casser le jouet, donc 600 romans, c'est ce qu'on claironne pour cette rentrée littéraire, mais tous les spécialistes le savent, il y a 2/3 de ces livres qui vont passer à l'as, être dans des cartons renvoyés aux éditeurs. Voilà, c'est des petits jeux commerciaux entre libraires et éditeurs. Est-ce qu'on fait pas croire, et ça on se demande si vous l'avez raconté, est-ce qu'on fait pas croire aux lecteurs potentiels, aux auditeurs, à ceux qui nous écoutent, que finalement il y a beaucoup de livres, mais tout le monde sait finalement qu'il n'y en a qu'une petite partie qui va pouvoir sauver sa vie dans les rayons?
Mais en théorie, tout le monde a sa chance au départ. Bien sûr qu'on n'est pas en train de dire youpla boum, c'est terriblement compliqué. Chaque année, il y a des maisons d'édition qui meurent. Il y a rien de plus. Il y a peut-être un centième des auteurs qui vivent de leurs plumes. C'est extrêmement fragile.
Et cette technique des premiers romans qui, de toute façon, sont jamais suivis d'effet.
Mais c'est pas vrai. Les premiers romans ont beaucoup plus de chances sur le marché que les deuxièmes romans. Les premiers romans, il y a une véritable attention de la part du milieu professionnel, des lecteurs professionnels et des lecteurs eux-mêmes. Il y a un côté excitant, c'est une nouvelle voie. Voilà.
Et les journalistes sont hyper heureux de pouvoir dire ah tiens, j'ai découvert un premier roman.
La revue professionnelle, personne n'avait lu quoi. La revue professionnelle Livre Hebdo fait chaque année une recension des premiers romans. Mais alors ensuite, c'est vrai, le deuxième, le troisième, c'est là que ça devient compliqué. Mais au départ, tout le monde a sa chance. Ensuite, voilà.
Tout le monde a sa chance. Faut pas non plus. Il y a quand même.
Que se passe-t-il? Racontez.
Bah, imaginez 600 romans qui débarquent. Donc, bon. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, journalistes? On va choisir au mois de juin les noms qu'on connaît, les auteurs qu'on aime suivre, ceux qui sont populaires, parce qu'évidemment, on s'adresse à...
Ou le petit conseil d'un attaché de presse à propos d'un auteur que vous ne connaissez pas, et puis vous êtes après fier d'avoir découvert la perle.
Avant d'écouter le petit conseil de l'attaché de presse, voyez, parce que là, en septembre, mine de rien, on est tous sur le coup, et on veut quand même tous un peu parler en premier des uns et des autres, enfin, des ceux qui font les têtes d'affiche. Imaginez, je sais pas, Festival de Montreux, il y a Lady Gaga, version... Toto, hein, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vouloir parler de Lady Gaga. Enfin, c'est logique. Donc, au début, évidemment, on va être très attiré par les têtes d'affiche et c'est sur cela que toute l'attention sera portée. Les 600 autres, non, tout le monde n'a pas sa chance. Évidemment que la réputation de l'auteur, la manière dont il s'exprime, dont il parle, le sujet de son livre, voilà, pour déterminer sa visibilité.
Nous sommes des lecteurs et des lectrices d'abord comme les autres. On est d'abord des lecteurs passionnés. Et ce qui est contagieux, c'est l'enthousiasme. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons encore avoir une influence ou être suivis ou espérer que les livres que nous conseillons sont lus. Les lecteurs savent que nous sommes d'abord des lecteurs passionnés, quoi.
Mais vous subissez le diktat esthétique de Paris ?
Esthétique ? Non.
Vous vous dites non.
Ce que je dis, c'est que il faut pas croire que nous suivons Paris. C'est-à-dire que les grands auteurs et les grands talents vont à Paris. Ce sont les grosses plumes sont
ça un peu le centre du monde économique.
C'est trois arrondissements parisiens.
Et
c'est là, c'est-à-dire qu'un auteur qui est talentueux, qui a beaucoup de, il n'y a pas que les talentueux qui vont là, il y a aussi dans les petites maisons d'édition des écrivains très talentueux, c'est pas ça que je dis. Mais les grandes plumes francophones sont à Paris. Les grandes plumes africaines, suisses, belges sont à Paris, c'est un fait. Donc c'est pas qu'on suive particulièrement ce que fait Paris, c'est que tout le monde va à Paris. Vous voyez?
Sauf que c'est pas forcément le goût parisien. Alain Mabankou, typiquement, il est publié à Paris.
Voilà,
mais il n'est pas parisien et il est aimé dans toute la francophonie. Mais peut-on dire qu'il représente le goût parisien? Est-ce que Musso Lévy, que tout le monde aime, qui est la littérature populaire devenue le goût universel, est-ce que ça représente le goût parisien? Non. Les romans très parisiens ne sont pas lus ici en Suisse romande.
La presse française qui est quand même très suivie en Suisse.
Vous avez été très fier de figurer dans le Nouvel Observateur?
Oh, ça, c'était une vieille histoire, le Nouvel Observateur.
Qu'est-ce que ça fait à l'ego?
Oh, pour draguer, c'est toujours mieux, disons, mais après, je pense que ça fait vendre quelques livres, en effet. Mais si vous voulez, je pense que oui, là, en effet, c'est suivi, c'est-à-dire que c'est pas forcément suivi, c'est pas parce qu'un critique à Paris va dire quelque chose que tous les critiques suisses en même temps vont dire la même chose. C'est pas du tout cette imitation-là.
En plus, les critiques suisses avaient déjà parlé livre avant que Paris
oui,
Match.
Exactement.
Mais vous, est-ce que vous allez chercher à avoir des articles? Est-ce que celui qui vous soutient, votre éditeur, a été chercher des articles dans la presse française pour donner un petit peu corps à votre CV?
Oui, je crois que c'était oui, évidemment. C'était bon pour eux. Ils sont français, donc forcément, c'est même plus automatique pour eux. C'est plutôt moi qui leur ai fait découvrir les titres en Suisse et qui leur ai. On a fait un échange de bons procédés comme ça. Forcément, ils visent plutôt la presse parisienne puisqu'ils y sont. Mais c'est quand même. Je pense que ça amène quelque chose. Forcément, ça veut pas dire que tout le monde est en train de suivre ensuite en Suisse. Par contre, c'est vrai que ça fait quelque chose d'assez bien et pour l'ego, mais pas seulement pour l'ego et pour la considération aussi en tant qu'auteur.
Et la vente, hein, quand
et la vente aussi, ouais.
Oui. Et la vraie différence aussi, c'est que grâce à cet éditeur parisien, non seulement il y a eu des papiers, mais le livre de Quentin Mouron, ses droits seront vendus rendue à Francfort. Et c'est un tout. On parle pas juste de quelques articles dans la presse. C'est toute une dynamique éditoriale différente que ça prend effectivement d'avoir un éditeur.
Parce que c'est vrai que pour la diffusion, quand
qui a le réseau international.
Voilà, exactement, parce que ça ouvre en même temps sur la Belgique et le Québec. Souvent, ça ouvre sur la francophonie depuis Paris, tandis que depuis la Suisse, on a l'impression que c'est souvent chaque marché qui doit être, qu'il faut se défendre sur le marché belge, il faut se défendre sur le marché québécois. C'est beaucoup moins automatique et les frontières sont beaucoup plus épaisses dans ce sens-là.
Bernard Campiche, vous avez intérêt à être une succursale d'un éditeur parisien, alors ?
Ouais, maintenant, je suis proche de la retraite que du début, donc.
Mais vous avez conservé votre passion.
Oui, oui, j'adore.
Mais alors, quelle est la place pour les auteurs romans ? Vous êtes battu pour de nombreux auteurs romans.
Écoutez, ça a beaucoup changé parce qu'effectivement, quand j'ai commencé, la place de la France n'était pas aussi nette qu'aujourd'hui. Bon, maintenant, je me réjouis d'être dans 5-6 ans parce que vous savez qu'en France, on signe pour 3 livres. Donc, la plupart des auteurs que je connais qui sont en France, ils sont à 2. Donc, je me réjouis de voir où va apparaître le quatrième, hein, pour voir si le contrat va être prolongé. Hein. Moi, j'ai jamais voulu signer un contrat pour plusieurs livres parce que j'estime que si on veut se séparer, on se sépare. C'est pas un contrat. Parce que c'est quoi un manuscrit? Si vous me copiez votre téléphonique, c'est un manuscrit ou c'est pas un manuscrit?
Les auteurs ont besoin d'être rassurés, d'être aimés et d'être se sentir en confiance pour créer dans bonnes conditions.
Écoutez, j'ai fait 15 livres de Beauvoir, 30 livres de Cuneo, 20 livres d'Anne-Lise Grobetti.
Donc ça allait sans dire, c'est ça?
Ben, bien sûr. Mais bien sûr. Et puis j'ai prêté des meubles à Anne-Lise Grobetti, je lui ai donné des meubles. Mais j'ai des contacts avec eux. Je veux dire, s'ils n'avaient pas eu confiance en moi, ils m'auraient jamais demandé ça.
Ils savaient qu'ils étaient partis pour 10 livres chez vous, du coup.
Non, mais j'ai, alors.
Et la presse n'a pas été si nécessaire que ça.
Le professeur Francillon m'a écrit un jour, il est impossible de travailler avec vous de manière durable et agréable. Alors, c'est formidable, la part de chercheur, d'écrire un truc pareil.
C'est pour ça que l'émission dure pas longtemps.
À l'époque, je crois que j'avais fait 15 Cuneo, j'ai dû faire 12 Beauvoir, 10 Grobetti. Alors, c'est quoi durable et agréable? J'aimerais bien qu'on m'explique.
Toujours cette étiquette de râleur qui vous colle à la
toujours,
peau. Mais que vous revendiquez aussi, Bernard Campiche.
Oui, mais c'est pas une légende, hein.
Mais pas toujours, c'est un peu une légende.
Isabelle Falconier, Christine Gonzalez, Bernard Campiche, Quentin Mouron, on va arriver au terme de cette émission. Petit tour de table et point final. Comment donnons quelques repères aux auditeurs qui sont aussi des lecteurs? Comment reconnaît-on une très bonne critique littéraire dans la presse? Christine Gonzalez.
Un bon critique, vous l'entendrez s'enthousiasmer, vous entendrez sa passion, vous aurez envie d'aller acheter un bouquin après avoir entendu sa chronique ou lu l'article. Et puis c'est ce même critique qui vous dira le plus grand mal d'un livre que vous avez aimé et ça vous tordra le cœur.
Quant à Mouron.
Vous savez, je crois qu'il faut lire vraiment plusieurs critiques pour se faire, hein, parce qu'un critique, c'est aussi une voix comme un auteur, donc il faut le lire, le
suivre. Un bon critique, ça peut être un critique qui dit du mal de l'un de vos livres.
Bien sûr. Moi, j'ai bien aimé. Il y avait une critique de Thierry Rabou dans La Liberté sur le troisième livre qui était négative et qui m'a beaucoup plu.
Quentin Mouron, merci. Bernard Campiche, un repère ou deux.
Je partage entièrement l'avis de Quentin. Je pense que c'est un ensemble. Je dirais pas qu'il y a une critique qui fait un livre. C'est un ensemble qui crée un mouvement. Et en général, ce mouvement est repris après par les prix littéraires qui sont aussi importants. Quoique, la vente, c'est un phénomène assez compliqué, hein. Je suis pas sûr.
Et on a le temps encore de refaire bien des émissions et bien des magazines, hein. On conclut. Isabelle Falconier, avec vous, une bonne critique littéraire.
Oui, l'enthousiasme contagieux qui transmet l'émotion que le ou la critique elle-même ressentit.
Le critique doit être jubilatoire.
Et surtout qui ne donne pas la fin.
Oui, ça c'est mal.
Ça existe. Les spoilers en littérature, non, s'il vous plaît, jamais.
Tous les quatre, vous allez vous rendre au livre sur les quais. C'est le week-end de paroxysme. Beaucoup de rendez-vous, tout ça sur Internet, vous le savez. Isabelle Falconier, critique littéraire à l'Hebdo, présidente du Salon du Livre à Genève et responsable de la politique du livre à la ville de Lausanne. Christine Gonzalez, journaliste RTS, critique littéraire pour le magazine Vertigo. Sur la première, Bernard Campiche, éditeur, Quentin Mouron, jeune écrivain, 25 ans, bravo à vous. C'est
merci.
Précoce, ça va être suivi d'effets. Grande carrière s'annonce devant vous.
Mais c'est merveilleux.
Vous l'espérez en tout cas.
Mais bien sûr, et puis je crois que là,
je
crois que j'ai déjà tenu quelques promesses, et puis ça continue, j'espère en tenir d'autres.
Alors à tous les quatre, merci infiniment d'être venus en direct dans mes dialogues, et puis bon week-end à Morges.
Merci.